par la double et unique splendeur de son âme et de son corps, d'avoir le bénéfice d'une belle mort. Chaque matin, quand j'allais, grâce à la complicité d'un gardien ensorcelé par sa beauté, sa jeunesse et son agonie d'Apollon, de ma cellule à la sienne, pour lui porter quelques cigarettes, levé tôt, il fredonnait et me saluait ainsi en souriant. Salut, Jeannot du matin. Originaire du Puy-de-Dôme, il avait un peu l'accent d'Auvergne. Les jurés offensés par tant de grâce, stupides mais pourtant prestigieux dans leur rôle de parc, le condamnèrent à 20 ans de travaux forcés pour cambriolage de villas sur la côte et le lendemain, parce qu'il avait tué son amant Escudero pour lui voler moins de 1000 francs, cette même cour d'assises condamnait mon ami Maurice Pilorge à avoir la tête tranchée. Il fut exécuté le 17 mars 1939 à Saint-Brieuc.
Dis pas ça à ma femme, elle parle tous les 7 ans et même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles. C'est tellement bidonnant que ça en devient consternant.
Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation de la rediffusion et à la réalisation du premier enregistrement, première diffusion. Nous allons passer ce mois-ci, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur au 145, rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, à la librairie Publico. Et vous pouvez aussi prendre la carte d'auditeur et ou vous prendre une souscription, quoi, 8 € par mois. Pour nous aider par RIB ou comme vous voulez, ou chèque, enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est pour vous aider à faire des émissions libres. Alors, ce mois-ci, nous allons rediffuser une émission avec Henri Tachant, qui est mort en ce mois de juillet. Et il m'avait reçu en 2004 à sa maison dans la banlieue d'Avignon, enfin la région disons d'Avignon, et très simplement j'étais parti en train, j'ai pris une voiture presque chez lui et voilà, et on a fait l'entretien, ce fut un bon moment, c'est comme si je rencontrais un ancien copain, quoi, parce que j'avais suivi tous ses disques, toutes ses chansons dans les années 70-80, et je le connaissais bien. Voilà, bah, la rediffusion, musique Erwan.
En fouettant ses chevaux, son grand manteau pendait hors du traîneau. À l'épouvante, sa rage dans son dos, il est revenu avec des tas de cadeaux. Mais sa maison était vide et l'amour froid envolé comme neige au vent. Fou affamé et mordu comme loup, il s'est jeté à mon cou. Je lui ai dit 100 fois que la femme est fragile, plus que la fleur de mai, cet imbécile. Il est reparti en fouettant ses chevaux, son grand manteau pendait hors du traîneau. À l'épouvante, sa rage dans son dos, il est revenu avec des tas de cadeaux. Mais sa maison était vide.
Bonjour, vous écoutez Radio Libertaire, l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au 01 43 71 89 40. Vous pouvez aussi la contacter au mail demo-une-voix@voila.fr. Et vous pouvez encore aussi la contacter par écrit au 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Ce mois-ci, nous recevons Henri Tachant. Henri Tachant, bonjour.
Bonjour.
Bon, pour vous présenter, je crois qu'il n'y a que votre nom à dire. La majorité de nos auditeurs doivent vous connaître, je pense.
Je ne sais pas.
Moi, je pense quand même, parce que là, j'ai moi-même un petit tour de notoriété autour des invités que j'ai. Je dis leur nom, et souvent, ils sont inconnus, et vous étiez une des personnes les plus connues autour de moi.
Ah ben, je suis flatté.
Oui, ça, c'est, il faut le dire. Et d'abord, je vous remercie d'accueillir Radio Libertaire chez vous. J'ai la première question que je vais vous poser, c'est une question toute, je dirais presque d'état civil. Henri Tachant, est-ce votre vrai nom ?
Non, mon vrai nom, c'est Tachjian, T-A-C-H-D-J-I-A-N. Mon père était d'origine arménienne. Et bon, je l'ai raccourci par commodité, parce que c'était vraiment très compliqué au téléphone. Tachjian, comme à l'école communale, d'ailleurs, ça commençait là. Ce n'est pas du racisme du tout, simplement parce que le mot en France, le nom en France est très compliqué à prononcer, quoi.
Et vous le dites dans une chanson, je crois, si j'ai bonne mémoire.
Bah, c'est-à-dire, j'ai eu un problème avec un instit un jour qui s'est moqué de mon nom devant les élèves, etc. Ça m'avait marqué, mais c'était vraiment l'infime minorité, hein. Parce que, bon, c'est normal, un nom polonais, un nom arménien, un nom avec des... en France, c'est très compliqué, comme nos noms Dupont-Durand doivent être très compliqués.
Vous n'avez pas été embêté, sinon, par votre nom d'enfance, à l'époque, il y avait moins de soucis de...
Mais si, vous savez, les enfants, entre eux, ils sont assez cruels, et ils se moquent, si vous avez les cheveux comme ci, la peau comme ça, ou un nom... C'est normal, ça commence de bonne heure, quoi.
D'accord.
Vous savez bien.
Qu'écoutiez-vous dans votre enfance comme musique ?
Quand j'étais petit.
Ou l'enfance, l'adolescence, enfance-adolescence.
C'est pareil, hein.
Non, mais allez-y, même tout petit, même allez-y.
Moi, j'ai commencé par Tino Rossi, Là-haut sur la montagne, une chanson que d'ailleurs j'ai chanté dans un radio-crochet. Des chansons d'Yves Montand chanson de Francis Lemarque plutôt, par Yves Montand. Toi, tu ne ressembles à personne. Parce que le musicien. J'écoutais beaucoup des. Après, j'ai commencé à écouter des chansons de Léo Ferré par Catherine Sauvage. Puis après, l'adolescence est arrivée. Je vous parle que des chansons, hein.
Non, mais oui, bien sûr. Non, mais... On pourra dire les livres après, faire les lectures après.
Puis après, j'ai découvert Guy Béard en premier. Non, Georges Brassens au lycée. Le gorille qu'on se passait sous le manteau. Et puis les chansons tendres, la chasse aux papillons, etc. Ensuite, j'ai découvert Guy Béard. Et après, j'ai eu le choc Brel. Voilà en gros le cheminement.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, crié t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogory, bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogory, mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory,
vous dites sous le manteau, il y avait des chansons interdites à l'époque?
Ah oui, c'est ce qui a fait la pub de Brassens. Quand il chantait le gorille, c'était quelque chose. Hein. On se le passait tous, c'était... En plus, tant mieux, c'est un chef-d'œuvre.
Mais ça tenait quoi, une frilosité des pouvoirs qui avait...
À cette époque-là, c'était clair, vous savez. C'était l'époque où les truands étaient les truands et les gens honnêtes, en gros. C'était l'époque où il y avait une censure établie et c'était bien, quoi. Parce qu'on se battait contre la censure. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, c'est plutôt le bordel.
On laisse parler les gens, mais les gens parlent dans le vide, quoi.
Non, en ce moment, c'est une forme de laxisme et d'autocensure. D'ailleurs, l'autocensure a commencé même à cette époque, parce que sous De Gaulle ou sous Pompidou, je ne pense pas que le général De Gaulle disait « il faut interdire Henri Tachant ou un autre hein. ». D'abord, il me connaissait.
Mais c'était un petit comité qui décidait.
Mais voilà, pour faire plaisir au chef, on devait censurer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus insidieux, puisque c'est à l'envers. Tout est permis. Tout est permis. Alors moi, je suis absolument contre ça. Les hommes ne sont pas suffisamment adultes, si j'aime pas ce mot-là, mais suffisamment raisonnables pour qu'on leur permette tout.
Vous pensez ça?
Voilà, oui.
Vous pensez pas qu'un
J'ai
jour...
J'ai pas envie de me faire poignarder dans la rue.
Ouais.
Les hommes sont suffisamment... ne sont pas prêts à l'anarchie et à un certain respect de l'autre suffisant pour qu'il n'y ait pas de loi.
Et vous pensez qu'un jour, une conscience comme vous parlez, qui est impossible aujourd'hui, elle pourrait exister?
Non.
Il faut que ce soit toujours comme ça.
Oui.
C'est ce que m'a dit hier Pierre Drachtine que j'ai interviewé.
Bien sûr. Vous savez, depuis 2000 ans, l'homme n'a absolument pas changé. Ce qui a changé, c'est la technologie, des inventions, plus ou moins diaboliques d'ailleurs. Alors, on s'en sert mal. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé depuis 2000 ans? On a inventé la pilule, c'est bien. La contraception, c'est très bien. La télé, c'est très bien. L'invention télé, hein. Mais vous voyez ce qu'on en fait, quoi.
Ben voilà, c'est ça, le contenu est assez médiocre.
Non, il faut des règles. Pour les enfants, il faut des règles. Ils cherchent des règles, ils ont une soif de justice. Les adultes, c'est pareil. Et tout ça, c'est des beaux rêves, et qu'il faut faire en rêve. C'est pour ça que les artistes existent. Mais il faut un code, il faut des lois, le moins mal taillé possible. Sinon, c'est la tuerie, hein.
Ouais, dans l'état actuel des choses, mais vous pensez pas
que c'est... Ça fait 2000 ans que c'est comme ça.
Oui, ça fait 2000 ans, mais vous pensez pas qu'un jour, peut-être, ça peut changer?
Mais oui, mais on rêve.
Ouais, c'est une utopie, ouais, mais je reconnais.
L'utopie, c'est l'art.
Mais vous la mettez dans l'art.
Alors, si je parle artistiquement, je dirais oui. Si je parle civiquement, je dis non. Voilà.
D'accord.
Bien sûr, faut quand même pas mentir.
Non, mais c'est pas une question de mensonge, c'est une question d'avoir le droit de rêver. Moi, je me permets le droit de rêver en rêvant des utopies, quoi.
Mais le droit de rêver... il faut voir si c'est applicable.
Ah oui, non, mais j'ai pas...
Hein?
Oui, j'ai...
Voilà,
moi, c'est ce qu'on espère tous.
Si les gens si des milliards d'individus sur Terre rêvent et appliquent ça, mais ça se saurait depuis. Hein. Donc, c'est pas possible. Mais non, bien sûr que non.
D'accord. Quel conseil donneriez-vous, Henri Tachant, à un adolescent qui voudrait devenir chanteur?
J'ai pas de conseils à donner, simplement je lui demanderai est-ce que tu es prêt à crever la vache, à bouffer de la vache enragée? Est-ce que tu es passionné par ça? Est-ce que tu veux vraiment contre vents et marées? Alors vas-y. Sinon, si tu commences à dire sécurité de l'emploi, comment il faut faire pour passer la télé, j'ai rien à répondre.
Mais vous êtes connu comme chanteur, donc il est possible d'y arriver sans...
Il y a le hasard aussi.
Le hasard, les rencontres ?
Il y a les rencontres, il y a le travail, il y a la persévérance, il y a le hasard. Mais je ne sais pas.
J'ai une phrase aussi sur le hasard qui reviendra tout à l'heure. je suis en train de la chercher. Enfin bon, je pose la question d'après. On dirait que vous êtes à l'écoute du monde, mais aussi hors du monde. Qu'est-ce que cette écoute et ce détachement du monde à la fois ? On dirait que vous avez les deux un peu.
Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de vivre sur cette planète une vie normale, entre guillemets, et j'ai besoin de m'évader sur une autre planète. Voilà, c'est tout.
Je cite « Plus grand artiste imprévu et mystificateur de tous les temps », dites-vous à la fin d'une présentation du livre, des quatre disques, l'intégrale en quatre volumes pour l'instant qui sont sortis de vous, paru chez Naïve, dans le quatrième... de Tom, vous dites « Plus grand artiste imprévu et mystificateur de tous les temps, le hasard. Y a-t-il beaucoup de hasard et un peu de volonté humaine ? Comment voyez-vous ce phénomène de hasard ? Vous parliez du hasard tout à l'heure. Croyez beaucoup au hasard, a priori. »
Écoutez, moi, je ne suis pas croyant. J'ai toujours été joueur. Et je pense que la vie est un jeu. Et on ne sait pas la fin, on ne sait pas dans quel but. Alors, autant jouer. Avant de... Vous savez, si je fais de l'art, c'est un jeu. C'est la voie étroite quand même. J'ai toujours joué dans ma vie. Bon, j'ai arrêté les jeux d'argent. Avant, je jouais aux courses de chevaux, je jouais au poker. Parallèlement à mon art, j'ai toujours été fasciné par le jeu et par le hasard. On passe dans la vie, paf, il vous tombe un cancer ou il vous tombe le numéro gagnant du loto. C'est ça la vie. On rencontre une femme, on ne rencontre pas. C'est passionnant et c'est effrayant en même temps.
Et quand vous parliez d'il y a du hasard, il y a aussi les rencontres. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques rencontres que vous avez faites dans votre vie qui vous ont aidé ? Peut-être les premières qui sont les plus importantes, peut-être.
Mais ça a commencé au lycée. Certains profs de français qui m'ont donné le goût de la littérature, de l'art dramatique et de la poésie. Et c'est ça surtout comme ça. La poésie, par exemple, j'ai un prof qui m'a vraiment... j'étais passionné par la poésie, par les poètes, romantiques surtout. Commencé par Alfred de Musset, Vigny, Victor Hugo et tout, et puis les autres. Après, et puis mon père, par exemple, qui était fou de musique, et grâce à lui, j'ai écouté mes premiers disques classiques, donc j'ai tombé amoureux, fou de musique classique, et comme rien ne se perd, et que je n'avais de génie ni en musique ni en poésie, comme disait Brel, quand on n'a pas de génie en musique et en poésie, on devient chanteur. Et voilà, c'est peut-être que 30 ans après, ça m'a aidé à écrire des chansons.
Et vous n'avez jamais eu envie d'écrire des livres, puisque vous lisiez les poètes, vous n'avez pas cherché à...
Mais non,
vous mettiez dans un début de livre que vous avez écrit 500 chansons étant jeune et qu'il en restait 3.
Non, mais j'étais attiré par les vers, par la poésie, moi. J'étais plus attiré par la poésie que par la prose. Et je ne sais pas écrire en prose. Je ne sais pas non plus écrire en poésie, mais je suis capable de faire quelques chansons quand même. Mais c'est vrai que j'écrivais des poèmes quand j'étais petit. À 13 ans, j'écrivais des poèmes, genre, comme vous dites, 500 et... Il y en avait peut-être 2 ou 3 à garder. Et je me souviens, quand j'ai débarqué au Canada en 63, c'est pour ça que je manquais pas d'air. J'ai appelé tout de suite Félix Leclerc, qui était une immense vedette. En plus, Félix Leclerc, il m'a reçu. En fait, c'était avec une simplicité, un quart d'heure. Hein. Et je lui ai fait lire des trucs. Et je me souviens, il a pris un crayon, il a rayé ça. Il a pris un comme ça. Il y avait, je sais pas, 30 ou 40 vers. Il a gardé le dernier, il a dit, voilà, il faut partir de là. Il me dit, j'avais oublié.
Et vous avez suivi son conseil ?
Bien sûr. Il fallait élaguer. J'étais trop bavard. Et d'ailleurs, pourquoi continue-t-on à écrire ? Enfin, bon, pourquoi je continue à écrire ? Parce que pour continuer à écrire d'une façon différente, pour changer, pour être moins bavard, pour être... sinon, c'est toujours les mêmes sujets. Mais c'est la forme, essayer de dire les choses d'une façon différente. Ça m'intéresse, ça.
C'est la petite musique de...
De jongler avec les mots, de les tordre, de leur enlever leur sens, de... J'aime bien, moi, cette espèce de puzzle.
C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois, quand tout va pendu l'autre fois, sous la gargouille d'un toit. Il était amoureux, ça rend un homme bien malheureux. Écoutez son histoire un peu, après vous rirez mieux. La fille lui avait dit, puisque tu m'aimes, fais-moi une chanson simple et jolie. Le gars, à sa table toute la nuit, trouva ce que je joue à l'instant même. C'était bien, mais il mit des Proutchkinov, des icônes de la vodka, des Troïka. Et hop, et galop dans les neiges de Sibérie, Pétersbourg et la Hongrie. Et avait la Mitrachka avec ses propres pieds, Molotov et Natacha. La fille écoute ce mini-mélo et dit, c'est loin et c'est trop. Le pauvre Québécois, pas même remis de son émoi, se replongea dans les bémols en arrachant son col. Il était amoureux, ça rend un homme bien courageux. Il pense à trouver beaucoup mieux avec cet air en bleu. California, blues, apple pie, hallelujah, Coca-Cola, la belle bien-aimée. En entendant ces bouts-là, fut si grandement affolée qu'au couvent elle entra. Le pauvre Québécois, découragé, saigné à froid, gagna son toit par le châssis et s'y pendit. Par les matins d'été, quand les oiseaux vont promener, derrière la grille du couvent monte ce chant troublant. C'était un Québécois qui voulait me célébrer. Hélas, il avait oublié de me regarder. Reste ma patrie.
Et après avoir écrit ces 500 poèmes, vous n'avez jamais réécrit pour vous, dans, plus tard dans votre vie, de la poésie, ce qu'on appelle la poésie, donc,
si,
en dehors de chansons?
Ben, c'est-à-dire que de temps en temps, j'écrivais des choses et je n'ai pas mis de musique dessus, parce que ça suffisait à mon avis. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-uns que je fais sur scène. J'ai un texte qui s'appelle « Ma révolte », je le fais sur scène, sans musique. J'ai écrit un petit poème qui s'appelle « Petite vieille », où je parle d'une petite vieille. Ben, je vais la dire sur scène avec une musique classique derrière, un accompagnement. Il y a des textes que je garde comme ça.
Et vous avez jamais pensé les recueillir dans un petit volume de poésie?
Non, parce qu'il n'y a pas de différence entre mes poésies et mes chansons, vous comprenez? Je ne suis pas Verlaine ni Rimbaud, je suis un auteur-compositeur-interprète, ça s'appelle Henri Dachance et tout.
Oui, mais bon, vous avez fait rêver beaucoup, beaucoup, vous faites encore rêver beaucoup de gens.
Oui, mais tant mieux, avec des chansons. Mais la poésie, c'est autre chose. Enfin, c'est toute la différence entre le talent, si j'ai un petit talent, et puis le génie. Ouais. Je connais très bien la différence.
C'est un peu ce que disait Gainsbourg.
Mais bien sûr.
Mais je trouve qu'il... Bon, enfin bon.
Non, mais je n'ai pas parlé de l'impact émotionnel.
Ouais,
ça
ouais,
n'a rien à voir.
Ouais, ouais.
On peut être autant ému par un poème de Verlaine que par une chanson chantée par Édith Piaf. Mais comment vous dire la différence entre le talent et le génie, je ne sais pas. Moi, je le sens, mais voilà. Vous comprenez entre...
Mais des fois, on est pris par vos chansons quand on les écoute et...
Oui, d'accord.
Et ça nous mène peut-être aussi loin que...
Alors, disons que moi, j'ai besoin que la barre soit plus haute pour moi.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai besoin plus de Beethoven que de Brel dans ma vie de tous les jours. Ça n'enlève rien à l'admiration que j'ai pour Jacques Brel, vous le savez très
oui,
bien.
Oui, c'est deux choses différentes.
Mais moi, j'ai besoin de Beethoven au meurt sur scène, c'est tout. C'est là que je me rebecte, vraiment.
Vous n'écoutez pas d'opéra?
Je suis assez allergique à la voix classique, sauf des exceptions comme Caruso, dont je suis fou, et surtout Maria Callas, alors, qui me fait pleurer, quoi.
Je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Des mots, une voix » de Thierry, avec Erwan à la réalisation, sur Radio Libertaire 89.4 MHz. Vous pouvez contacter directement l'émission au 01 43 71 89 40. Vous pouvez aussi la contacter au mail « demotunevoix@voila.fr ». Vous pouvez aussi la contacter au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Nous recevons ce mois-ci Henri Tachant. Une question, bah, je crois que vous avez déjà répondu, mais je vais quand même vous la poser. Êtes-vous libertaire ou qu'êtes-vous politiquement ?
Je suis libre.
Mais vous...
Pas libertaire, je suis libre.
Oui.
J'essaie d'être libre le plus possible, ce qui ne m'empêche pas de suivre l'actualité politique avec beaucoup d'intérêt depuis très longtemps.
Et vous ne ressentez pas dans certaines opinions, dans certains courants, vous n'avez jamais eu des affinités, vous... C'est toujours au coup par coup les décisions, et des fois d'un côté, des fois de l'autre. Ou vous vous retrouvez plus dans certains courants.
Pour vous dire la vérité, je suis un... Comment je pourrais dire ? Humainement, je suis un centriste. Mais je pense que quand on arrive au monde, On est du centre, je veux dire. C'est après qu'on choisit. Oui, parce que j'ai horreur des extrêmes, sauf en art. Mais dans la vie, j'ai horreur des extrêmes, qu'ils soient de gauche comme de droite. Alors on jette toujours l'opprobre sur l'extrême droite, par exemple en politique, mais il y a toujours une espèce de sentiment bienveillant des intellectuels pour l'extrême gauche. Je trouve que les deux sont également dangereux. Et depuis l'émergence d'une certaine extrême, je vote régulièrement pour empêcher qu'elle s'installe. Voilà, sinon, j'aime la démocratie, et je reprendrai la phrase de je ne sais plus qui disait que c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. La démocratie, c'est très difficile. Et je suis pour.
D'accord, merci Henri Tachant. Où avez-vous chanté vos chansons pour la première fois ?
Au Canada. Au Canada. C'est Claude Léveillé, un chanteur canadien qui a beaucoup de talent, qui m'a pris en première partie où j'ai commencé à dire de mes textes. Et lui, il m'a mis certains textes en musique. Et après, j'ai chanté dans une petite boîte à Montréal, ça s'appelait Chez Clairette. Je passais en ouverture de programme, là. Je faisais deux, trois textes à moi, puis je chantais deux chansons de Brel et une chanson de Brassens. Voilà. Et puis j'ai fait des auditions, tout ça, puis j'ai rencontré Brel, et puis voilà, puis tout a commencé.
Et vous aviez quel âge quand vous avez fait le premier passage sur scène ? Vous vous rappelez ?
En professionnel, quand je suis rentré à Paris ?
Pas forcément, non, pas en
professionnel. C'était en 65.
Oui.
Quand j'ai commencé en professionnel, payé, enfin vous voyez, professionnel. C'était en 1965, nous sommes en 2003, donc ça fait 40 ans, quoi.
D'accord. Avez-vous des difficultés à sortir votre premier disque ?
Pas du tout. Absolument pas. J'ai sorti mon premier disque comme si j'étais Frank Sinatra, c'est incroyable. Eddie Barclay m'a sorti avec des tambours et trompettes, en clamant à tout le monde, vous allez voir ce que vous allez voir, ce qu'il fallait pas faire. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Il s'est planté, j'en ai vendu 3, mais j'ai continué. Voilà.
Et combien vous avez sorti en tout, si vous avez le chiffre à peu près, exact ?
Mais écoutez, je suis en train de faire l'intégrale de tout ce que j'ai sorti, chronologiquement. Il y a environ 280 chansons.
280 chansons.
Il va y avoir 7 doubles albums.
D'accord.
Voilà, quoi. C'est une somme. Je suis content, d'ailleurs.
Et ça vous plaît, l'intégrale, là ?
Ah bah, je suis très content. C'est comme un
c'est
artisan.
Extraordinaire, bah voilà.
C'est comme un artisan qui a fait des meubles, et tous ces meubles de toute sa vie professionnelle sont devant lui. Et voilà, moi, je suis très content. Je suis content. Oui, je suis content. Et d'ailleurs, j'ai tout enregistré. Même les chansons que j'aime pas, même celles qui sont ratées, il y a tout. Parce que sinon... C'est toutes mes enfants.
Ben justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que faire des livres, c'est un peu faire des disques, c'est un peu laisser des traces comme faire des enfants ? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ? Est-ce que vous le voyez
un peu
comme ça ?
Oui, il y a un peu ça. Pas quand on est mort, parce que quand on est mort, c'est foutu. Mais mon intégrale, là, moi, je suis pas une grande vedette, hein. Et mon intégrale, c'est de mon vivant quand même. J'en suis très fier. C'est que c'est rarissime que ma maison de disques naïve que je salue fasse ça. C'est un signe de reconnaissance et d'estime. Et ça, je suis très sensible à ça.
Et puis, ils pourront rajouter des tomes dans les temps qui vont venir.
Ah, mais vous savez, je fais l'intégrale, mais je prépare un nouveau disque qui sortira bien quand il sera prêt. Hein.
Ouais.
Ça, évidemment, j'ai des chansons pour. Hein. Je suis
toujours
prêt.
On les attend toujours.
Quand je suis au micro, ce n'est pas un meeting. Dans mes chansons créneaux, ni message, ni consigne. Je veux pas refaire votre monde, je veux rêver le mien. Et quand je vous raconte mes révoltes, mes chagrins, ne vous croyez donc pas obligé d'adhérer. Dans mon parti, il n'y a que moi, et c'est déjà le merdier. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring, avec ma gauche, ma droite, sans soigneur ni doping. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite. La mort qui me fait signe. Croyez-moi, ce choix-là n'est pas des plus faciles. Les moutons de Panurge me traitent d'inutiles. Les miliciens rasés de révolutionnaires. Les militants de choc de rêveurs littéraires. Il n'y a rien qui irrite tant tous les troupeaux honnêtes que de ne pas pouvoir me coller d'étiquette. Ni gauche, ni centre, ni droite, ni blabla, ni béquille. ni rouge, ni blanc, ni noir, ni fusil, ni faucille, ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite, la mort qui me fait signe. L'engagement politique, pour moi, c'est comme la foi. Tu crois en Dieu, bon Dieu, ou bien tu n'y crois pas. Je crois parfois en l'homme dans mes moments de fièvre. Mais dedans mon terrier, mi-sanglier, mi-lièvre, loin des meutes de chiens, des cors et des clameurs, je suis gibier d'abord, vous n'êtes que chasseur. Ni gauche, ni centre, ni droite, ni slogan, ni insigne, ni rouge, ni blanc, ni noir, ni complice, ni consigne, ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite, la mort. Voilà 11 ans bientôt que je chante au secours, que je chante ma révolte, que je chante mon amour. Voilà 11 ans bientôt que d'hiver en automne, je me bats par instinct à côté de ma lionne, que je remets 100 fois sur le papier l'ouvrage, que 100 fois, sans raison, je refais le voyage. Ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec ma gauche, ma droite, sans soigneur ni doping. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring, avec mon cœur qui boite, la vie qui me fait signe.
Vous dites dans un entretien publié dans le CD1 Tachant, donc l'intégrale dont nous parlons, volume 1, 65-69, en réponse à la question « Quelles étaient alors vos préoccupations artistiques ?» vous répondez « Écrire, écrire et encore écrire. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai noirci des pages blanches de plus de 500 poèmes. J'en ai gardé 3 à peu près acceptables. 3. C'est énorme et c'est un point de départ. Je voulais être édité, pléiadé, être poète, quoi. Mais ça n'intéresse plus personne, la poésie. Alors quand on n'est ni Beethoven, ni Rimbaud, on devient auteur, compositeur, interprète. Comme on disait, je veux dire chanteur, je veux dire artisan, en essayant avec le temps d'avoir un petit bout de talent. Vous dites que vous auriez aimé être poète. C'est ce qu'on a déjà parlé un petit peu.
On l'a dit tout à l'heure.
Hein. Oui. C'est marrant, les questions, elles sont déjà posées.
Non, mais c'est marrant parce que j'ai dit avant ce qui était écrit là, j'y pensais même plus. Donc c'est vraiment ce que je pense. Hein.
La poésie, c'est l'absolu, c'est l'écriture. N'est-ce pas ce que vous faites? Alors, une petite nuance.
Non, mais j'en reviens toujours. D'abord, si la poésie, c'est l'excellence, c'est l'absolu, il n'y a pas besoin de musique, déjà. Et puis bon, après, il y a la notion de génie, qui est très difficile à expliquer, c'est parce que c'est personnel. Le génie, qu'est-ce que c'est que le génie? C'est évident que quand j'écoute Beethoven, je prends Beethoven comme exemple, il y a quelque chose qui dépasse de puissant, de venu d'ailleurs. Enfin, il y a des types quand même qui ont du génie. Shakespeare, les pièces de Shakespeare, c'est génial. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Bon, des chansons de Léo Ferré, par exemple, c'est très bien. Pour moi, c'est pas génial. Mais ça me bouleverse, c'est pas ça le problème. Il y a des mecs qui sont des génies. Léonard de Vinci, c'est un génie. Van Gogh.
Mais est-ce que c'est la forme qui produit le génie?
Je sais pas, non.
Oui, parce que vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas de chanteur génial.
Non, mais c'est une question de terminologie, de mots. Il faut bien mettre des mots sur des sentiments.
Oui, oui, non, bien sûr.
Van Gogh, excusez-moi, mais je sais pas.
Et pour moi, je mets.
Il a pas de talent, Van Gogh.
Je mets un Ferré à la hauteur d'un grand poète, quoi.
Mais voilà.
Mais il y a pas, je fais pas.
J'y arrive pas complètement.
Ouais, ouais, moi je sais, je le fais.
J'y arrive pas complètement.
Parce qu'il y a des textes qui sont extraordinaires. Mais bien extraordinaires,
sûr.
Qui...
Mais bien sûr, mais quand on pense que Rimbaud a écrit ça 100 ans avant...
Ouais, c'est autre fou. Chose, ça, là.
Mais c'est fou, c'est fou.
Ouais.
Attendez, puis sans musique, sans rien, et puis avec un dépouillement, il n'y a pas de déchets, quoi. Des poèmes de Rimbaud, il n'y en a aucun. C'est pas... Baudelaire, c'est...
Bah, Baudelaire, moi, c'est mon poète préféré,
Non, mais
Baudelaire.
Attendez, ça, vous rendez compte.
C'est extraordinaire.
Il écrit ça il y a plus de 100 ans.
Et ça nous parle comme si c'était écrit hier, quoi.
Mais voilà, certains poèmes de Hugo, c'est pas vrai, enfin... Etc. Il y a du déchet chez Hugo, mais oh, quelle écriture, mais quelle puissance. Hein?
Non, moi je suis d'accord avec vous, mais je comprends, j'essaie de vous expliquer un peu la différence.
Ce que je
entre...
dis est purement subjectif. Hein.
Ouais. Voilà. Parce que pour moi, je ne vois pas de différence, entre ce qui nous entoure et ce qui nous procure des grandes joies artistiques. Je ne mets pas de niveau, quoi.
Écoutez, je fais la même différence en parlant de mes chansons et des chansons de Brassens. Que des chansons de Brassens et des poèmes de Rimbaud, si ça peut arranger tout le monde. Je suis très, très lucide. Sur mon propre talent, sur le talent des chanteurs et sur le talent des poètes. Voilà, sur le génie des poètes. C'est une question de barre, plus ou moins haute, personnelle, qui m'est personnelle.
Ouais, ouais.
Ce qui ne m'empêche pas de chialer comme une midinette quand j'écoute, Piaf chanter Les Amants d'un jour. Voilà, c'est tout. Émotionnellement, c'est pareil. Mais il y a un truc en plus pour moi, une espèce de soleil, une espèce de planète où il fait bon habiter. Quoi.
Vous en lisez encore des poèmes ?
Ah, bien sûr.
Et vous lisez quoi en ce moment ? C'est votre dernier livre que vous avez lu ?
Le dernier bouquin de poèmes que j'ai relu.
Oui, relu.
C'est Apollinaire.
Ah oui, Apollinaire, oui.
Apollinaire, dans les Pléiades.
Ah oui, c'est aussi merveilleux. Je les
ai toujours sous la main, là. J'ai Baudelaire, Apollinaire, Verlaine, Rimbaud.
Vous avez deux volumes des Fleurs du Mal en Pléiade,
ouais,
de Baudelaire ?
Oui, oui.
Parce que moi, j'aime bien chez Baudelaire, c'est que c'est un personnage qui est très contrasté, quoi. Il a des, il a des côtés qui sont, je dirais, un peu contestables. Et par autre côté, il va être brillant, il va être... on ne pourra pas jamais l'atteindre. Il est très contrasté, quoi. Mais...
oui, mais ça, c'est les personnalités des gens.
Ouais, ouais.
N'en parlons même pas, parce qu'on serait
On le découvre dans la Pléiade. Moi, j'ai ignoré la Pléiade très longtemps comme édition de Baudelaire. J'avais lu ses livres, Les Fleurs du Mal, Les Paradis Artificiels. Et puis, j'ai découvert la Pléiade, où on trouve même ses notes de blanchisserie.
Et
mais ça forme un tout qui est très cohérent, de toute façon.
Oui, vous savez, il y a l'homme et l'artiste.
Ouais.
Discussion.
Bien sûr.
Je ne crois pas aux anges. On est tous anges et démons. Et si on est ange, artiste, c'est déjà pas mal. Bon, essayons d'être le moins démon possible humainement. C'est pas de la tarte, mais bon, on n'est pas des dieux. Et on devient des dieux peut-être à travers notre art, mais des demi-dieux, ou des petits dieux. Mais dans la vie de tous les jours, on fait pipi et caca comme tout le monde, et voilà, point final.
D'accord.
Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins, remplis de soleil. On les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi, je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer.
Je tiens ici publiquement à vous remercier de nous avoir offert vos chansons. Je vous connais depuis les années 70 et toujours depuis lors, vous m'accompagnez comme un ami. Je reçois ici des auteurs de livres. Mais du texte du livre au texte de la chanson qu'on écoute, y a-t-il une grande différence ?
Un livre, on le prend, on le lit et on est là avec le livre, avec l'auteur qui vous raconte une histoire par la plume en prose. Une chanson, ça s'écoute. Il y a la musique, ça dure 3-4 minutes, c'est un condensé, c'est comme, je dirais, une nouvelle, quoi. C'est une petite nouvelle, une chanson avec la musique et avec une mélodie. La chanson, c'est la chanson. C'est un art.
Et les poèmes d'Aragon mis en musique par Ferrat, par exemple.
Ah oui, alors justement, alors il y a des exceptions. Parce que je suis contre mettre les poèmes en musique, sauf si c'est bien. Sauf si ça colle. Quand je vois les poèmes de Victor Hugo ou de Jean Richepin mis en musique par Brassens, c'est absolument prodigieux. On dirait vraiment que ça a été écrit comme ça. Bon, c'est incroyable. Si les poètes étaient là, je suis sûr que Victor Hugo, il dirait à Brassens, c'est formidable. Pareil pour Ferré et Ferrat qui ont mis Aragon. En plus, ça a vulgarisé Aragon, parce que c'est extraordinaire. Hein. Enfin, quand on écoute...
Et là, dans cette chanson, par exemple, précisément de Ferrat qui chante Aragon, vous retrouvez...
Moi, je pensais pas à ça, je pensais... Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. C'est une merveille, cette musique, sur ce texte absolument génial. Ça, c'est un poème génial. Et la musique, elle colle. Mais c'est... Donc, et puis, bon, moi-même, j'ai commis des musiques sur certains poèmes et je pense que ça colle bien. On a envie de rendre hommage à ses maîtres. Et quelle meilleure façon de rendre hommage à un poète que d'essayer de faire une mélodie sur les poésies. Et quel meilleur hommage à faire à un musicien classique que d'essayer de mettre un texte sur sa musique. C'est un hommage, parce que c'est... Enfin, venant de ma part, c'est un hommage à mes maîtres.
Mais vous l'avez fait, vous.
Bien sûr, je continue. Je suis en train de me battre en ce moment pour avoir la permission de faire un texte sur une musique d'un compositeur dont je demande à la famille. Je suis en train de me battre comme un chien. Parce que je sens que ça colle, quoi.
J'espère qu'on entendra cette chanson.
J'espère aussi.
Pour moi, quand je cherche à vous définir, je dis chanteur à texte. Est-ce que cette formule vous convient ou quel mot choisiriez-vous ? En même temps, ma formule oublie votre musique.
D'un côté, ça m'énerve qu'on dise chanson à texte. D'un autre côté, comme il y a des chansons qui...
Oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je pose la question.
Oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Il y a toujours eu des chansons qui étaient la 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 la. Bon. Et puis, il y a eu Brel, tout ça. Oui, c'est un peu énervant. C'est un peu comme on dit chanson française. On est en France, je ne vois pas pourquoi on dirait chanson française. C'est un pléonasme. Mais enfin, bon, il faut toujours cataloguer, il faut toujours...
Non, mais c'est parce qu'il y a des
points sur les i.
Il y a des gens, quand j'ai dit que je faisais l'interview de vous autour de moi, des gens qui m'ont... Il y en a qui vous connaissaient, bien sûr. Et il y en a des, surtout des jeunes, la génération de 20 ans, qui ne vous connaissaient pas spécialement, eux, et parce qu'ils sont jeunes, simplement. Et ils me demandaient des choses sur vous. Qui êtes-vous ? Alors moi, je disais, c'est un chanteur à texte... Je sais pas comment
il fallait
que je dise des mots, quoi.
C'est un peu dangereux de dire ça parce que ça veut dire chiant, quoi.
Non, pas pour moi.
Non, pas pour vous, mais quand on dit à un jeune chanteur à texte,
ouais.
Ça se prend la tête. Non, faut dire, c'est un chanteur qui raconte des histoires avec des musiques audibles. Il a des mélodies et puis des textes qui essayent d'être clairs. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est long, hein.
Ouais, je dirais ça.
Parce que chanson à texte, ça veut dire, on va se prendre la tête. Ça veut dire...
Ouais, il y a peut-être aussi ce côté-là, un peu connoté. Tout est connoté maintenant.
Tout est connoté, c'est monstrueux. Les mots, c'est ce que je vous dis, sont impuissants. C'est pour ça que je préfère la musique.
Ce jour où nous parlons tranquillement ici, dans tout le pays, la police se renforce et exerce un pouvoir accru sur chacun. Que pensez-vous de la police en particulier ? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait une société vraiment égalitaire pour ne plus voir des comportements avec des gens qui craquent d'une manière ou d'une autre jusqu'à l'intervention extérieure ? Aujourd'hui, la police. Vous avez déjà parlé, je pense que votre avis est différent.
La police est un mal nécessaire, c'est tout. C'est tout. J'ai pas
Mais
plus.
Vous ne pensez pas que c'est la société qui produit ? Par exemple, si les gens étaient mieux éduqués, vous ne pensez pas que...
Si.
Déjà, ouais, c'est toujours des si, je sais.
Si ça commence par si, ne m'intéresse pas.
Ouais.
Parce que si en 2004, on tentait de dire si, c'est que ça, rien n'a marché. Et tout, on a tout essayé. Hein. Attendez.
Non,
ça va, je ne suis pas naïf.
Ouais.
Non, il faut la police, mais il faut qu'elle travaille bien, il faut qu'elle fasse son boulot, comme les instits, comme les médecins, comme il y a des rigolos partout, c'est tout. Je connais même des rigolos chez les intellectuels, je veux dire, hein, et puis chez les philosophes. Non, attendez, non. Que chacun fasse bien son travail, mais... L'homme est suffisamment mal fabriqué, c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça, pour qu'il ait besoin d'une police, c'est tout.
D'accord, je vous remercie, Henri Tachan.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Sont leur petit jet horizontal, leurs petits siphons, leurs deux babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Sont leurs petits cèpes dans leurs culottes. Leurs petits périscopes sous la flotte. Sont le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette, dans des gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leurs vieilles guerres, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière, les hommes. Irrédité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins qu'une sorte de hors-cité, un homme. J'aime les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux, enfin quoi c'est pas comme nous. Les hommes s'aiment les femmes à la folie, passives, muettes, mais jolies, de préférence dans le lit. Des hommes au babillon ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, s'aiment les femmes sans espoir. Les hommes prostituées ou pénélope, apprivoisées ou antilope, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes sont abattus, les Tibétains. Sont fricassés les Africaines, sont indignés les indigènes, les hommes. Sont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux châtelaines, il est habillé à Mémène, les hommes. Excusez-moi, mais elle me gratte, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate, des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir, de votre mafia, votre empire, des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Pensez-vous que notre civilisation a un avenir ? Vaste question.
Écoutez, je ne veux pas faire comme le général de Gaulle répondre après moi le déluge. Je n'en sais rien.
Non, non, mais c'est une question que je pose.
Je n'en sais
comme,
rien.
Comme une discussion entre amis, quoi.
Je ne sais pas, c'est mal barré, mais je.
Oui, voilà, c'est ça, quoi.
C'est mal barré, mais il y a toujours des gens de bonne volonté.
Bien
alors
sûr.
Alors pourquoi pas ? On ne va pas désespérer ouais. Billancourt. Ouais. J'ai deux enfants, je vais les désespérer. Mais franchement, je suis assez pessimiste.
Oui. Non, c'est une question un peu d'humeur. Selon les jours, on répond différemment.
Heureusement que dans la vie, on rencontre des individus qui sont sympathiques. Voilà.
Pensez-vous qu'amour et solitude soient conciliables ou contradictoires ?
Pardon ?
Pensez-vous qu'amour et solitude soient conciliables ou contradictoires ? L'amour et la solitude, ça peut marcher ensemble ? Une vie solitaire et une vie d'amoureux, ou est-ce
que... On est toujours seul, de toute façon. On est toujours seul. Même quand on s'aime, chacun est seul. Mais à deux, on est moins seul. Voilà, c'est tout. Si on s'aime vraiment, on est moins seul. Mais si un des deux, par exemple, disparaît, c'est terrible. Hein ? Alors on est seul, l'autre il est seul. Ça veut dire qu'on est toujours seul. Mais autant aimer alors.
D'accord, restons sur cette note positive.
Non, moi je le pense.
Comment votre chanson La Chasse a été accueillie par le public? Et comment vous ressent-on? Quand on n'est pas consensuel, on fait grincer les dents, non?
Mais on n'est jamais consensuel. Alors, si on est consensuel, c'est que... c'est qu'il y a un consensus. Mais il n'y a jamais de consensus. Il y a toujours des gens contre, des gens pour, et c'est ça la démocratie. Et La Chasse, elle était très bien accueillie. Mais ce qui me déçoit un peu, c'est qu'elle a même été accueillie très bien par les chasseurs, qui m'ont applaudi sur scène. C'est quand même incroyable. Alors peut-être, alors on me dit que peut-être pendant 3 minutes, ils ont pris conscience. Moi, j'y crois absolument pas. Ils ont applaudi l'artiste, quoi. Bravo l'artiste. Mais c'est quand même... j'aurais attendu de leur part qu'ils me fassent la gueule, quoi.
Bah oui, bah c'est à ça que bah je non. pensais, moi, en posant cette question-là.
Il y en a certains qui sont venus me chahuter, mais bon, je me laisse pas faire sur scène. Je suis tout nu sur scène, j'ai pas de fusil, moi. J'ai que mes chansons en guise de fusil. Alors ils osent pas. Ils sont quand même impressionnés. Eux, ils ont besoin de leur phallus, là, pour tuer les lapins. Mais moi, j'en ai pas besoin. Et en plus, les lapins, moi, je les recueille. Je les tue pas.
Merci Henri Tachin, il fallait que ce soit dit.
Sur une boîte de conserve, sur un pigeon d'argile, vin Dieu, c'est pas pareil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut de la chair tiède avec du sang vermeil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut que ça palpite de plumes et de ramages. Il faut que ça ait peur, il faut que ça se sauve, bref, que ce soit sauvage. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la soupape des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Chaque mois de septembre, le plumé au chapeau, ils partent comme en 40. Ranimer la flamme du chasseur inconnu qu'avait du poil au ventre. En carte comme les putes, ils draguent à embouger, ils tapinent en Sologne. Mais quand ils tirent leur coup, le client de passage se réveille charogne. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le coït des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Regardez les marchés, l'arrogance au visage, le cœur sur la gâchette. Ces spadassins rentrés, ces héros d'épinal, ces tueurs de fauvettes. Regardez les marchés, ces arrobes de banlieue, ces émigrés de Neuilly. Vers le trou à lapin, vers la mare à canard, y faire leur safari. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la villette des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Les soldats, ça s'enraye, les soldats, ça se rouille, c'est comme les carabines. Ton service militaire, tu le continues plus tard à coups de chevrotine. Pour le chasseur français, il y avait le perdreau au boche ou le lièvre félouse. Pour le chasseur franquiste, l'anarchiste rouge-gorge et la chienne andalouse. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le petit Vietnam des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. La chasse, c'est le défoulement national, c'est le petit Vietnam des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix.
rêve.
Pouvez-vous nous dire quels sont vos musiciens et nous parler un peu de ceux d'en ce moment et ceux d'avant qu'ont traversé votre carrière? On n'a pas parlé des musiciens.
C'est surtout les classiques, surtout. Je suis fou de musique classique. Avant tout, au-dessus de la poésie, pour moi c'est la musique classique, c'est mon oxygène. J'ai besoin de récupérer avec ça. C'est ma planète. C'est ma drogue. J'adore la musique dite classique, puisqu'il faut mettre des mots. Plus que tout au monde, en art. C'est un besoin physique. Et surtout Beethoven. Je reparle de mon pote Ludwig, qui ne m'a pas quitté depuis l'âge de 13 ans et qui à chaque fois ça ne va pas, je me passe du Beethoven et je redémarre. C'est incroyable. Il y en a qui prennent de la coke, moi je prends du Beethoven.
Ça fait moins de mal.
Absolument. Et c'est le même résultat.
C'est un conseil à donner. Le choix des musiciens, c'est le plus important dans un spectacle. C'est ce qui en donne sa couleur quand vous jouez sur scène.
Très important. Moi, j'ai toujours fait de la musique de chambre, en gros. J'ai rarement chanté avec un orchestre. Je ne sais pas, ça ne me convient pas. Moi, il me faut un pianiste, c'est tout. Un pianiste qui m'accompagne et avec qui je m'entende artistiquement et humainement. Et j'ai eu la chance, dans ma carrière, depuis 1965, d'avoir des pianistes extraordinaires. J'ai eu Jean-Paul Roseau, qui était mon premier pianiste et qui a fait des tas de mélodies sur des textes. Remarquable. Ensuite, j'ai eu Jean Lesage, remarquable pianiste qui aurait pu faire une carrière classique et avec qui je m'entendais comme avec un ami. Enfin, les concordances, c'est très important sur scène d'avoir du feeling, comme on dit. Et puis, Antoine Marie Millet en ce moment, bon, c'est pareil, c'est un remarquable pianiste et on s'entend humainement, ça c'est très très important. Et puis pareil pour celui qui fait le son et les éclairages. On travaille à trois. C'est un trio, moi, mon spectacle. Serge Madelena, qui depuis 20 ans s'occupe des lumières et du son. Et tout ça est harmonieux. Et sans eux, le spectacle serait complètement bancal.
C'est-à-dire, selon le musicien, il est différent, quoi. C'est le musicien qui apporte sa partie du spectacle.
Mais bien
quoi.
Sûr, bien sûr. Mais moi, je travaille de cette façon-là. Il y a d'autres chanteurs qui ont besoin d'avoir 40 musiciens, 50 musiciens, je comprends fort bien.
Oui, c'est pas...
Moi, non. Moi, j'ai besoin de ma liberté. Dans la vie, j'ai besoin d'être libre, et sur scène, pareil. Et avec mon pianiste et l'éclairagiste, je suis libre. Là, je me sens libre, vous comprenez? Là, je peux faire mon travail.
D'accord. Il est dit sur Internet que vous avez un rapport particulier avec les médias. Pouvez-vous nous parler de votre rapport aux médias?
J'ai toujours...
Vous m'avez reçu très simplement, comme tous les écrivains que je contacte. Donc moi, mais je pose la question parce qu'on le trouve sur Internet. J'ai consulté Internet cette nuit et... Bon, alors je pose la question. Peut-être que vous allez me répondre.
Moi,
non,
ça fait 40
rien
ans,
de spécial.
40 ans que je fais ce métier. J'ai toujours eu des rapports absolument cordiaux avec tous les journalistes, de la presse écrite ou radiophonique. Le seul truc, c'est qu'il y a une ignorance on m'ignore depuis 40 ans dans les médias dits genre Europe numéro 1, Luxembourg.
Oui, oui, mais enfin bon.
Mais je m'en fous complètement. Oui, tant pis, pour moi, je m'en fiche, je continue mon chemin. C'est sûrement ma faute, je ne sais pas, j'ai pas tellement envie, je ne sais pas.
Mais c'est peut-être parce que vous êtes considéré un peu comme un chanteur engagé et que vous dérangez la bienséance de leurs antennes, quoi.
Comme Diane Sylvestre, je suis complètement dégagé de tout. Non, c'est pas ça. Non, mais de toute façon, quand je vois ce qu'on nous offre comme programme à la télévision, je suis très très heureux de ne pas y participer. Mais je suis très sincère, je suis pas ironique du tout.
Non.
C'est catastrophique.
C'est d'une tristesse. Bon, moi, j'ai pas la télé, de toute façon, pour dire simplement, j'ai pas la télé, quoi.
Catastrophique.
C'est une grande tristesse.
«
entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier, où deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise. Alors l'amour et l'amitié, n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, ils ont barbelé des frontières. Nos sentiments étiquetés, et si on aime trop sa mère, ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en autre. On est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. Alors que l'amour et l'amitié ont la même gueule d'innocence. Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon père. Mon ami, entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires gras-de-haine. Bon an, mal an, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Entre l'amour et l'amitié se cache un petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Je t'aime, mon amour, mon petit.
Je vous rappelle que vous écoutez Radio Libertaire, l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Nous recevons ce mois-ci Henri Tachan. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail desmotsunevoix@voila.fr. Vous pouvez la contacter aussi au 01 43 71 89 40 ou au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Nous avons écouté la chanson Entre l'amour et l'amitié. L'amour, l'amitié, on pourrait confondre, non, Henri Tachan? Parce que c'est le sujet de cette chanson.
C'est ce que je dis dans la chanson, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Voilà, c'est clair, net et précis. Il n'y a que la chair, quoi. Sinon, bon, je ne vois pas la différence.
Et ça, c'est une phrase, par exemple, qu'on retiendra de vous.
Ben oui, un coup de peau, elle m'est venue, et
ouais,
voilà, bon,
mais
paf.
Mais celle-là, moi, elle est toujours restée, cette phrase-là.
Ben oui, mais je crois que c'est un peu ça, quoi.
Et elle résume bien les choses.
Je pense. Je pense. L'amour, c'est l'amitié plus le désir sexuel. Voilà, en gros, quoi. En gros, toujours en gros, ouais. Bien sûr.
D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous parler d'admiration que vous avez eue envers vos contemporains, que ce soit dans le domaine de la musique, ou des livres, ou de l'art en général? Vous aimez quoi comme art en dehors de la musique? Qu'est-ce que vous avez comme préférence, si vous avez des préférences?
Je suis un fou de cinéma. Depuis de mon tendre âge, j'ai une collection de 1000 cassettes, là, vidéo, et je suis complètement siphonné de cinéma. Et je suis très éclectique dans mes goûts, J'aime autant les westerns quand ils sont remarquables qu'Ingmar Bergman, que Woody Allen, que Laurel et Hardy, que Charles Chaplin, que Stanley Kubrick. Ça dépend si les films me plaisent ou pas. J'ai une belle collection et j'adore le cinéma. Je suis passionné.
Et par exemple, l'art contemporain, vous aimez? Pas du tout? Vous ne connaissez pas?
Je découvre un peu parce que j'ai une amie de ma femme, qui est une amie à moi aussi, dont c'est la spécialité, et je découvre un peu. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais bon, on ne peut pas tout aimer, chacun ses goûts.
Non, bien sûr, on est tous différents.
Il y en a qui aiment les grillades, d'autres qui aiment le bœuf miroton. Il y en a qui aiment le vin blanc, d'autres qui aiment le Coca-Cola.
Et la peinture, sinon? Peinture durant l'histoire?
J'aime beaucoup la peinture, mais ça vient après la musique, après... Mmh. La poésie, après le cinéma même. J'aime la peinture, mais j'idolâtre Van Gogh, c'est tout. Voilà, c'est bête. Je n'aime pas l'opéra, mais j'adore Maria Callas. J'aime pas l'opéra, mais j'aime Wagner. J'aime pas l'opéra, mais j'aime Verdi. Parce qu'ils sont extraordinaires. J'aime pas l'opéra quelque part. C'est pas de ma faute. Voilà.
Et par exemple, quand vous allez visiter une ville à l'étranger, vous visitez les musées?
Ah oui.
Oui.
Oui, de toute façon, si j'y vais pas, ma femme, elle va me prendre par la peau du cou, elle va m'y amener. Parce qu'elle adore les musées.
Et les églises aussi. Moi, c'est deux choses que je visite toujours. Et les cafés aussi. Et les cafés. C'est trois passages obligés. Musée, église et café, moi dans les villes.
Moi, je dis à ma femme, tu visites cette église du 13e, et moi, je vais dans ce café du 21e. Elle se marre. Non, mais c'est vrai. Bon, je préfère être à la terrasse d'un café si je suis en Espagne ou en Italie, plutôt que d'être trimballé dans une église. Mais ça, c'est normal, je suis un paresseux.
Merci Henri Tachant.
Tu es l'enfant que je n'ai pas voulu. Tu es la mère qu'un jour je n'aurai plus. Tu es l'ami que racontent les bardes, ma femme. Tu es tous ceux que je n'ai pas aimés. 20 ans de peur, y a pas de feu sans fumée. Et ce feu-là fragile, je te le garde, ma femme. Et puis, conjugalement parlant, on ne ressemble pas à ces gens qui s'épousaillent et qui se taisent. L'habitude a beau faire sa cour, notre petit foyer surcourt cherche la mer à ses falaises. Tu es l'enfant qui sanglote et s'endort, cet oiseau blanc qui revient vers le nord. Tu es l'oiseau de tiédeur et de plume, ma femme. Tu es la lionne qui veille des petits, qui sont aux autres pas les siens comme on dit. Tu es la lionne aimante et redoutable, ma femme. Et puis zoologiquement parlant, on ne ressemble pas à ces clans qu'on apprivoise et qu'on apaise. L'habitude a beau faire sa cour, notre petit Kenya surcourt cherche sa jungle et son zambèze. Tu es l'enfant étrange qui s'entête à préférer le genre humain aux bêtes. Tu es l'enfant qui croit toujours au monde, ma femme. Tu es la bouche des pauvres qu'on muselle, le poing tendu des manchots des rebelles. Tu es l'espoir qui palpite et qui gronde, ma femme. Et puis socialement parlant, on ne ressemble pas à ces Durand, qui cocorique, qui marseillaise. L'habitude a beau faire sa cour, notre petite patrie surcourt, c'est un vieux sentier de Corrèze. Tu es l'enfant qui supplie dans le noir, dis
s'il te plaît, raconte-moi une histoire. Celle où le loup n'a pas mangé la chèvre, ma femme. Et je murmure, il était une fois, et te voilà parti à travers bois, petite chèvre accrochée à ton rêve, ma femme. Et puis, tout bêtement parlant, nous on ressemble à ces enfants qui se réchauffent et qui se plaisent. L'habitude a beau faire sa cour, notre petit bonheur sur cour se cache entre ses parenthèses. Tu es l'enfant que je n'ai pas voulu, tu es la mère qu'un jour je n'aurai plus, tu es l'ami que racontent les bardes.
En plus des musiciens, de qui avez-vous besoin dans votre pratique? Vous en avez parlé quand vous avez parlé de l'éclairagiste, le troisième homme de votre équipe.
Moi, j'ai besoin que l'époque dans laquelle je vis soit féconde en talent pour me pousser au cul. Dans les années 65, quand j'ai commencé, autour de moi, il y avait plein de talents. Il y avait une émulation merveilleuse, on avait envie de faire des choses. Aujourd'hui, c'est le vide sidéral, ça donne pas tellement envie.
Là, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'on arrive à trouver des artistes, mais on a plus de mal, mais nous, on est une radio un peu indépendante et on essaie de trouver des autres
mais
artistes.
Mais il y en a.
On essaye, mais il y en a.
Écoutez, quand on a connu les années 60-70, c'était un vivier.
Oui,
incroyable.
Je sais bien, les noms, on les a cités déjà.
Les plus grands,
quoi. Il y en a des dizaines.
Et les Fanons, et les De Bronca, et les Jarnulf, et les Mouloudji, et les... Mais c'est incroyable.
Et connaissez pas maintenant des chanteurs comme Dominica, Jean-Louis Murat, ce genre de chanteurs, par exemple, d'aujourd'hui, vraiment, des années 2000, c'est vrai,
je connais mal.
Il y a ce genre de chansons aussi, un peu, qui...
Oui, moi, il faut que je brûle de passion pour quelque chose. Hein. Il faut pas que je dise, oui, c'est pas mal, quoi. Un tel, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça me suffit pas. Moi, j'ai besoin de dire, par exemple, Souchon, c'est super. Jean-Claude Vaillet, c'est presque génial. Enfin, c'est... Voilà. Mais parlons-en, parce qu'on ne parle jamais. Souchon, ça va. Ça marche. Je suis ravi, parce que je suis content qu'un mec marche et qu'il vende des millions de disques, là, pour cause de talent. Ça, alors là... Je suis heureux.
Ça peut aussi marcher. On peut aussi avoir du succès et avoir du talent. C'est pas non plus impossible.
C'est rare.
C'est très rare, ouais.
Je me souviens de Brel, Brassens et Ferré qui me disaient « On est passé entre les mailles du filet, quand même. » Bon.
Alors. Mais à l'époque, il y avait peut-être moins de structure, c'était un peu plus libre,
Attendez, écoutez, Van Gogh n'a jamais vendu une toile. Bon, allons.
Il a vendu une, je crois.
Pour l'anecdote, je crois. C'est son frère qui a dû lui mentir.
Non, mais c'est vrai, le talent
ne rime pas toujours.
Et vous pensez qu'on trouvera, par exemple, au 21e siècle où on vit maintenant, des artistes du 20e siècle qu'on découvrira maintenant, comme on a découvert Van Gogh au 20e siècle?
Mais oui. Moi, écoutez, je vais vous dire une chose, puisque je suis dans la chanson. Vous connaissez. Bon, je vais reparler de Jean-Claude Vanier, par exemple. Jean-Claude Vanier, c'est un orchestrateur. Il est connu comme orchestrateur dans le métier. Il a orchestré Gainsbourg, Nougaro. C'est un orchestrateur de talent énorme. Mais qui sait qu'il a enregistré 6 disques ou 6 ou 7 disques que j'ai à la maison, qu'il a écrit des chansons extraordinaires que personne ne connaît, qui doit vendre 4 disques. Mais quelle époque, avec toutes les fausses valeurs qu'on entend à la radio, qu'on voit la téloche, et dès qu'il y a quelqu'un qui a un tout petit talent, « Oh, dit c'est extraordinaire !» Non, mais attendez, oui, Vanier, c'est extraordinaire, c'est tout.
Elle est ma maladie. Ma fièvre familière t'appuie depuis toujours dans mon ventre tanière. Elle est mon cri de gosse, elle est ma sœur jumelle. Le petit prince mort, il ne me restait qu'elle, ma révolte. Elle est cet internat, ce dortoir militaire où, chagrin, j'ai laissé mon enfance au vestiaire. Elle est mes poings serrés de haine, mon front têtu. Elle est ma solitude et mon grand monde perdu, ma révolte. Elle est ses ronds de jambes, ses échines courbées, ce client quatre étoiles et ses crêpes flambées. Elle est ce larbin triste qui nettoie les mangeoires, mais qui a craché un jour sur le dernier pourboire, ma révolte. Elle est sans discipline, elle est sans étiquette. Pas un parti n'a mis ses griffes sur la bête. Elle gronde au jour le jour, mais à la nuit, elle met bas ses chansons d'enthousiasme et d'ennui, ma révolte. Elle est mon Jiminy Cricket, mon oncle Harry. Elle est mon idée fixe, mon unique pari. Elle est mon oasis, mon torrent de névrose. Elle est mon chrysanthème, mon jardin de roses, ma révolte. Toi qui attends la paix, la justice, l'amour. Toi que guette la gloire, les honneurs, la richesse. Toi que le temps grignote un peu plus chaque jour. Garde un grain de folie, garde un brin de jeunesse. T'en révolte, t'en révolte.
J'aime vous entendre rugir.
Oh, bah écoutez.
Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir.
Il y en a marre, faut pas prendre des gens pour des cons.
Je cite, sachant là, c'est la question de tout à l'heure, je vous l'avais déjà posée. Alors, il y a une question, vous m'avez répondu tout à l'heure, quand je suis arrivé chez vous, vous m'avez montré deux livres, vous répondiez un peu indirectement à cette question-là. Écrivez-vous, avez-vous déjà pensé à sortir un livre ?
Non, je vous ai répondu que la prose, c'était pas mon truc, c'était plutôt les vers qui m'intéressaient, les rimes. Mais par contre, aux éditions Artemus, petit éditeur breton qui se bat comme un chien, est sorti 200 de mes chansons illustrées par les dessinateurs d'Arakiri. Et j'en suis très très fier, c'est vraiment ma légion d'honneur, ça. Vous comprenez, les textes sont illustrés par Cabu, Volinsky, Gébé, Rezer, etc. Nicolo, Hugo, Willem, c'est extraordinaire.
C'est toute l'équipe.
Mais
qui a accepté.
Mais bien sûr. Et ça, pour moi, c'est une reconnaissance aussi. Voilà ce qui aide à continuer les rencontres comme ça. Ça aide.
D'accord.
Ben oui, ça vous rassure.
Et la dernière question que vous y avez répondu...
Préface de Cavana, s'il vous plaît. Je suis quand même
préface de Cavana.
Je suis quand même content.
Bien sûr, c'est des gens respectables.
Vous comprenez, c'est des gens que j'estime, qui m'estiment. Il y a une espèce d'estime réciproque. Et l'estime réciproque, c'est très important.
Vous avez été aidé, vous étiez un peu solitaire comme dans votre carrière, mais vous avez reçu des aides.
Un choix.
Des aides.
Je suis
discrètes.
Un solitaire. Ouais, mais les solitaires rencontrent les autres solitaires. Donc on est moins solitaire. J'aime bien garder un peu de solitude. Pas trop, un peu. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Je suis une presqu'île. Voilà. Je suis pas une île, je suis une presqu'île. Et dans presqu'île, il y a île et il y a presque.
D'accord. Et la dernière question, qui est la question que vous avez répondu tout au long de l'entretien. La création, l'art, c'est essentiel pour vous ?
Bah évidemment pour moi, puisque j'adore ça. J'adore raconter des histoires, jouer avec les mots, trouver des mélodies, voir la réaction du public, rentrer en studio pour faire un disque. J'adore tout ce qui est artistique, c'est la moitié de ma vie, l'art. J'adore, c'est mon moment d'utopie, c'est mon moment de rêve, c'est mon moment où tout est possible.
Et dans l'utopie, par exemple, vous ne croyez pas que l'homme, il se sauve sans religion, par l'art ? C'est une des manières d'aller plus haut, de chercher à s'élever ?
Par l'art ?
Oui.
Ah oui.
C'est ça, vous ne pensez pas, que c'est une manière de s'élever, quoi.
Écoutez, peut-être que je bégaye, mais mon Dieu, à moi, c'est Beethoven.
Mais oui, non, mais on peut...
Il fait autant de bien que Dieu pour un croyant, vous comprenez ?
Moi, je comprends tout à fait, ça.
En plus, Dieu, c'est un homme, pour moi, je suis d'accord avec Brel.
Et puis s'il y a des dieux, c'est nous les dieux,
oui,
c'est tous les hommes qui sont les dieux.
Oui, voilà.
C'est la vie qui
est... On est des dieux mal foutus.
Voilà.
C'est notre imagination, notre utopie qui nous fait inventer l'art et nous fait inventer des sociétés qui n'existeront jamais.
Ouais.
C'est pour ça qu'on nous a mal fabriqués, parce qu'on nous a donné la capacité d'inventer et d'utopier, alors qu'on n'arrive pas à le mettre en pratique. C'est là où le bât blesse. Mais bon, c'est comme ça. Alors on a l'art, c'est mieux que la guerre.
C'est beaucoup mieux que la guerre.
Voilà.
Ce sera le mot de la fin, Rita Chant.
Tout à fait.
Je vous remercie Henri Tachan. Je vous rappelle que vous avez écouté l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation, sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, la radio de la Fédération anarchiste. Je vous rappelle que vous pouvez contacter l'émission au 01 43 71 89 40, au mail demo-une-voix@voila.fr et à l'adresse 145 rue Amelot, Radio Libertaire, émission Démo Une Voix, 75 011 Paris. Merci Henri Tachan et au revoir.
Merci.
Je ne veux plus dans ma tour d'ivoire faire des grimaces à mon miroir. Je ne veux plus au fond de mon île me regarder pousser le nombril. La solitude c'est comme la mort. Quand je suis plusieurs je l'appelle. Mais quand je suis seul je rêve de port, de métro, de tour de Babel. De grandes tours cacophoniques avec de la foule, de la sueur, des étrangers, des claques, des clics. Et autour de moi la rumeur. Et autour de moi la rumeur. Je suis une presqu'île. J'ai un bras vers la mer et le cœur dans la ville et les pieds vers la terre. Plus de Jersey, de Sainte-Hélène, plus de manoir sans Frankenstein, plus d'idées noires sans personne, plus de nuits blanches sans téléphone. La solitude c'est comme la rage. Quand je suis plusieurs je me fais la paire. Mais quand je suis seul je rêve de plage. Corps contre corps, chair contre chair. De grandes plages polluées même, avec de la foule, de la sueur, des gosses qui braillent, des gens qui s'aiment. Et autour de moi la rumeur. Et autour de moi la rumeur. Je suis une presqu'île. J'ai un bras vert la mer et le cœur dans la ville et les pieds vers la terre. Ce soir dans le silence bête je voudrais qu'une voiture s'arrête. Assassin, vagabond, qu'importe, mais que quelqu'un cogne à ma porte. La solitude c'est comme nous deux. Quand on est là il n'y a personne. Quand on est loin on rêve d'être deux à écouter le temps qui sonne. Le temps qui passera mieux quand même, avec nos rires, avec nos pleurs, avec ton front sur mon front blême, et autour de nous la rumeur. Et autour de nous la rumeur. Je suis une presqu'île. J'ai un bras vers la mer, mais le cœur dans la ville, et les pieds vers la terre. Et les pieds vers la terre. Et les pieds vers la terre.
Et une après-midi, Henri Tachan avec Démo une voix. Thierry et Erwan reviendront le mois prochain, troisième mercredi de ce mois, c'est-à-dire dans un mois exactement, hein, avec des invités en direct live dans le studio. Vous êtes maintenant à l'écoute du mélange sur Radio Libertaire, il est 16h50, j'arrive pas à voir 7, 8, quelque chose comme ça, pour ne pas dire 17h. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30, numéro de téléphone du studio le 01 43 71 89 40, et on va commencer notre affaire avec un anniversaire, je crois que c'était il y a deux jours, le saxophoniste alto, bien connu, Cannonball Adderley.